Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette dernière table ronde de ce vendredi, autour donc du roman historique et de tout ce qu'on peut faire autour du roman historique, avec donc à ma gauche Alain Grousset, auteur de très nombreux romans historiques, auteur aussi de romans de science-fiction, parfois les deux, notamment dans un genre dont il va être question et qui s'appelle l'Uchronie. Il a d'ailleurs dirigé une collection chez Flammarion qui s'appelait Uchronie. À ses côtés, Gilles Laporte, auteur de romans historiques, de biographies romancées, souvent en lien avec la région Lorraine. Il est l'auteur de romans historiques pur sucre, ni SF ni fantasy. À ses côtés, Estelle Faye. Oui, pur sucre, oui. Estelle Faye, donc auteur aussi de romans chez Scrinéo. On va parler plus particulièrement ce soir de La Voix des Oracles, de la trilogie. Donc, à ses côtés, Daniel Martinigol, plus particulièrement connu pour ses romans de science-fiction pour la jeunesse, et qui vient de se lancer aussi donc, dans le roman de science-fiction et le roman historique chez ActuSF avec une collection qui s'appelle Les Aventures de Guénelon. Elle nous en dira plus. Et à ses côtés, Christopher Priest, donc britannique, auteur lui aussi de nombreux romans de science-fiction. On va s'intéresser avec lui plus particulièrement à l'Uchronie, en particulier autour de son roman qui s'appelle La Séparation. Alors, Gilles Laporte, je vais commencer avec vous. Voilà. Donc, vous écrivez des romans, alors plus ou moins historiques. Le tout dernier s'appelle « Sous le regard du loup » se déroule à la fin des années 70. Alors, je ne sais pas bien si on peut dire que c'est un roman historique. Donc, j'imagine que vous faites de nombreuses recherches pour ça. Pour de recherche donc historique sur les contextes, mais donc à l'inverse des auteurs ici présents, vous n'y mêlez pas d'ingrédients qu'on dit nous imaginaires. C'est pas parce que vous manquez d'imagination, mais en tout cas pas d'imaginaire comme on l'appelle ici. Est-ce que pour vous l'histoire c'est un bloc de marbre, quelque chose qui pourrait pas être modifié?
Quelle question! Quelque chose qui ne pourrait pas être modifié. Ben, ça ne peut pas être modifié, l'histoire. Les faits sont les faits. Mais c'est l'interprétation des faits qui peut évidemment varier avec les lecteurs de l'histoire. Il y a autant de visions de l'histoire qu'il y a d'historiens, selon moi. Chacun de ceux qui, même les plus respectueux, entre guillemets, de l'histoire, sont des gens qui l'interprètent de toute façon. Alors moi, j'interprète l'histoire à ma manière. Je la lis à ma manière, avec mon regard d'homme de Lorraine, d'enfant d'ouvrier de filature des Vosges. C'est donc toute ma nature même qui s'exprime dans ce que j'écris à propos de l'histoire. Je vais y chercher ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse pour raconter des histoires qui permettent de la rendre vivante, en même temps que... pour tenter d'y trouver ce qui explique ce que nous sommes aujourd'hui, ce qu'est notre quotidien en 2016, et ce qui éventuellement pourrait permettre d'imaginer un avenir un peu différent de celui qui nous est imposé. Donc ça, c'est ma vision de l'histoire, et je dirais même que elle est plus qu'un décor, elle est plus qu'un environnement, elle est peut-être l'un des personnages, peut-être même le personnage principal de mes romans.
Et donc, vous n'avez jamais eu envie de faire advenir des choses qui n'ont pas été?
Mais si, tous mes personnages fictifs sont des personnages complètement imaginaires. Et là, je suis en plein dans l'imaginaire, pas l'imaginaire de la fantasy ni de la science-fiction, mais c'est une autre forme d'imaginaire. C'est même pas une autre forme, c'est l'imaginaire. Mes personnages fictifs, mes personnages romanesques vivent une vie qui finit par se marier avec celle des personnages historiques, dont je respecte scrupuleusement l'existence. Mais leur vie se tricote avec celle-là. Hein. Donc, il y a, dans les romans que j'écris, je ne vais pas parler en termes de pourcentage, mais l'imaginaire l'emporte largement sur la référence historique, puisque ce sont des personnages qui nous permettent d'entrer par la petite ou même parfois la grande porte dans l'histoire.
Christopher Priest, en tant que romancier, vous, quel est votre rapport à l'histoire comme matériau ?
Bonjour. First of all, I'd like to disagree with Gilles about facts being facts. I think one of the first things you learn about history when you read it closely is that there are no facts, there are only reportage. And you have to ask yourself who reported the history, why, and what was their motive. Now, most of our history comes down to us through chroniclers, through churches, through kings, through generals. In my experience, all of those are deeply to be distrusted.
Lionel Davoust traduit ses propos, j'ai oublié de vous présenter.
Merci, non, pas de problème. Première chose que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec Gilles quand il dit que les faits sont les faits. Quand on étudie l'histoire, qu'on la lit de très près, on se rend compte qu'il n'y a pas de faits, il n'y a que des comptes rendus de ces faits. Ce qui pose tout de suite la question de qui a écrit ce compte rendu, pourquoi, quel était son motif. Et en général, ces comptes rendus sont écrits par des chroniqueurs, par des églises, par des rois, par des généraux, et dans mon expérience, ce sont des gens à qui on ne peut absolument pas faire confiance.
Real history is people, society. It's what ordinary people did. It's the history of the First World War, for instance. It's not the history that the generals told us or the politicians. It's the story of the ordinary soldiers who were mostly drafted, sent to a war they knew nothing about, and were almost immediately killed, or certainly badly injured, and those who weren't injured were marked for it by life. And the First World War is an interesting example, because most of what we know about it from that point of view has come to us through poets. And those poets can be believed, because their facts might be singular or located to their own direct experience. But their feelings are true. They went through it. I mean, most of the all sides of that war produced a remarkable body of poetry, and I would say that's more reliable than the chronicles.
Les gens qui font l'histoire, la vérité de l'histoire, elle se trouve dans les individus, dans les peuples et dans les sociétés. Elle se situe surtout dans ce que les gens ordinaires ont fait. Si on regarde par exemple la Première Guerre mondiale, la vérité de la guerre, elle n'est pas dans ce que les généraux nous en racontent, elle n'est pas dans ce que les hommes ou les femmes politiques nous en racontent. L'histoire de la Première Guerre mondiale, c'est l'histoire des soldats ordinaires qui ont été engagés, qui ont été recrutés, qui sont partis faire une guerre dont ils ne savaient quasiment rien et qui se sont fait tuer directement ou bien blessés très largement, et ceux qui ont survécu ont été marqués à vie. Finalement, les comptes rendus les plus intéressants de la Première Guerre mondiale nous viennent à travers les poètes qui étaient là-bas. Et ces gens-là, on peut les croire. Bien entendu, leurs comptes rendus sont parfois un peu singuliers, ils utilisent des images, etc. Mais ils étaient là, ils en ont fait l'expérience directe, et donc par conséquent, leurs sentiments sont des choses réelles, puisqu'ils ont traversé ces faits-là. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les camps dans la Première Guerre mondiale ont finalement fini par produire une quantité assez importante de poésie. Et pour moi, je trouve que ce sont des comptes rendus qui sont largement supérieurs à ce que les chroniqueurs nous en ont fait.
Donc vous vous autorisez à donner votre version de l'histoire ?
No. No, I'm trying to understand how history works, and I'm really saying is that a lot of history is conventional, and it's described for the wrong reasons. You know, they say history is written by the victors. I mean, it's something that, for instance, there is a war going on at the moment with the people in ISIS and all that. And what we're hearing in the West is very much the West's point of view. We don't know the point of view of the people behind ISIS. I don't like what I know. I don't trust what I know, but I certainly don't know it.
Non, pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment l'histoire fonctionne. Tout ce que je dis, c'est que une grande partie de l'histoire, c'est quelque chose de très conventionnel, ce qu'on trouve dans les chroniqueurs, etc. Et ils décrivent parfois une histoire qui est peut-être fausse, puisqu'on sait que l'adage dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. En ce moment, par exemple, il y a une guerre qui se déroule en ce moment contre Daesh, par exemple, et tout ce qu'on entend, eh bien, c'est dans l'Occident, c'est le point de vue de l'Occident. On n'a jamais le point de vue des gens qui sont à Daesh. Alors, moi, ce que j'en sais, j'aime pas ce que j'entends. Je ne fais certainement pas confiance à ce que j'en entends et j'aime pas ce que j'en entends. Mais en fait, au bout du compte, je n'ai pas de compte-rendu de première main de ce que ces gens-là pensent.
Estelle Faye, vous vous situez où ? Les faits sont les faits, ça vous parle ou...
Alors, moi aussi, je vais... Désolée, pas forcément être d'accord avec Gilles Laporte. Et parce que je trouve que si l'histoire change, l'histoire évolue. Et par exemple, dans la période que j'ai choisie dans la Voix des Oracles, qui est la basse antiquité, l'histoire de cette période, ce n'est pas du tout la même maintenant que celle qu'on avait il y a 60 ans, ne serait-ce que ça. C'est une période dont l'histoire même est en train de changer. Alors il y a l'adage, l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais aussi vraiment l'histoire est écrite par les peuples qui maîtrisent l'écriture. Et dans la basse antiquité, il y a beaucoup de peuples qui n'avaient pas d'écriture. Par exemple, les royaumes parthes, à la rigueur, par moment, écrivaient quelques textes avec l'alphabet grec ou avec l'alphabet latin. Mais ce n'était pas vraiment leur propre texte. Les peuples barbares, les peuples pictes, aussi, souvent, on les a vus au travers des textes des Romains, qui avaient une vision, disons, assez biaisée de la chose. Et on a longtemps eu une histoire où, en gros, il y avait la sublime mais décadente civilisation romaine qui a été tout à coup enfoncée par les méchants barbares incultes venus du Nord. Maintenant, la vision qu'on en a depuis 60 ans, c'est que les choses étaient beaucoup plus nuancées, que les mondes s'interpénétraient beaucoup plus, s'influençaient beaucoup plus les uns les autres et sur une beaucoup plus longue période, en fait. Et cette histoire-là, ce qu'on en dit maintenant, c'est que justement, on ne sait pas tout. C'est une période qui est d'autant plus passionnante pour y placer une histoire, que quelque part le travail de romancier se fait aussi dans les trous qui sont en train de se creuser dans l'histoire officielle de cette période. Et dans ces trous-là, il y a tellement d'histoires à raconter, il y a tellement d'aventures à imaginer. Donc il y a un grand espace ouvert à l'imaginaire et il n'y a plus qu'à entrer dedans, quoi.
Alain Grousset, vous écrivez particulièrement pour la jeunesse. Est-ce que vous avez une certaine contrainte au niveau des faits de ce que vous racontez vis-à-vis des jeunes lecteurs ?
Non, absolument pas. Je fais ce que je veux. Déjà, j'écris de l'histoire pour me reposer entre deux écrits de science-fiction parce que c'est reposant parce que je n'ai pas à créer, à inventer tout le décor. Et puis, comme j'adore rechercher, c'est une grande période pour moi de lire, de prendre des notes, et pendant des mois si nécessaire. Et ça, j'adore, donc je me fais plaisir avant tout. Alors après, bien sûr, j'écris pour la jeunesse, donc je ne vais pas faire des livres hyper fouillés dans les périodes que je vais choisir. Mais je pars plutôt d'un fait qui me plaît, et à partir de là, je construis, je vais chercher ce que j'ai besoin dans les autres écrits et dans l'histoire. Alors, soit je prends cette histoire et je la triture pour en faire soit de l'Uchronie, soit complètement autre chose. Soit je fais un roman historique pur et dur comme Brenne le Gaulois, où là c'est vraiment, il n'y a rien de magique, il n'y a rien.
Daniel Martinigol, donc vous venez de vous lancer dans le roman historique qui est aussi mêlé de science-fiction vu qu'il y a un voyage dans le temps. Vous pouvez nous raconter brièvement ce qui vous a amené au roman historique ? Le contexte est un peu, enfin même très original.
Oui, Oui, c'est très particulier. En fait, moi, c'est le château de Guédelon qui m'a amené à me pencher sur le passé, parce que le château de Guédelon lui-même est une expérience qui cherche à savoir, justement, la technique de construction des châteaux forts. Et c'est tous les jours que les ouvriers sont confrontés sur le chantier à une réalité vraiment extrêmement tangible, comment le mortier peut se faire, comment on peut tailler les pierres, comment on peut monter des échafaudages, etc. Depuis l'ouverture du chantier, c'est sans cesse une remise en question. Donc leur devise, en quelque sorte, c'est « construire pour comprendre ». Ils font de l'archéologie vivante là-bas. C'est à chaque fois que les ouvriers arrivent sur le chantier, ils sont confrontés à la réalité du Moyen-Âge. Alors donc, il faut savoir que le chantier sacrifie à quelques normes de sécurité obligatoires. Il n'y en a que 5, donc c'est facile à dire. La première chose, c'est que tous les ouvriers doivent porter des chaussures de sécurité. Ça, c'est obligatoire par les lois du travail. La deuxième chose, c'est que lorsqu'ils sont en hauteur et qu'ils risquent éventuellement d'avoir une chute de pierre, etc., ils sont obligés d'avoir des casques qu'ils maquillent sous des faux chapeaux de toile, etc. La troisième chose, c'est que les tailleurs de pierre portent des lunettes de sécurité. La quatrième, c'est que les cordages sont tous des cordages modernes parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser les cordes de chanvre qu'ils tissent avec le cordier. Et la dernière chose, c'est que leurs échafaudages sont obligatoirement boulonnés et non pas avec des chevilles de bois, en fait. Mais ce ne sont que ces 5 choses-là qui sont obligatoires par les lois du travail sur le chantier. Tout le reste, tout ce qui se fait sur Guédelon se fait exactement dans les mêmes conditions qu'au Moyen-Âge. Et moi, c'est ce qui m'a fasciné la première fois que je suis allé visiter ce chantier. Je navigue dans la science-fiction depuis des années. J'ai toujours été passionné par le voyage dans le temps sans vraiment avoir osé m'y coller en tant qu'auteur. Mais là, en arrivant sur le chantier de Guédelon, j'ai eu la sensation de faire un véritable voyage dans le passé et de me retrouver au milieu de personnes en train de travailler au XIIIe siècle. Et ça m'a tout de suite donné envie de mettre des... Parce que je suis écrivain jeunesse, par vocation, et puis j'adore ça. J'ai eu envie de mettre des jeunes personnages dans un cadre aussi se prêtant autant au rêve, en fait, et à l'aventure. Mais je suis restée très longtemps sans en parler à personne, jusqu'à ce qu'un jour, je me confie à ma belle-sœur qui habite dans la région, en Puisaye, qui avait des chambres d'hôtes et qui, par le hasard de son travail lié avec le tourisme, connaissait la direction, enfin, les personnes à la direction de Guédelon. Donc elle m'a mise en contact avec eux et j'ai rencontré Marilyn Martin, la directrice du chantier. Et je lui ai dit, est-ce qu'on vous a déjà proposé d'écrire des romans jeunesse qui se dérouleraient dans le cadre de votre chantier? Donc elle m'a dit absolument pas. Elle m'a dit c'est une très bonne idée, c'est particulièrement séduisant. Donc elle m'a dit pas de fantastique. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait derrière ce terme fantastique. Elle m'a dit, je veux pas de magicien, pas de choses comme ça. C'est pas du tout l'esprit de Guédelon. L'esprit de Guédelon, c'est vraiment la vérité historique. Et elle m'a dit, au bout d'un moment, on s'est spontanément tutoyé très vite. Et elle m'a dit, ce qui serait bien, c'est que tes personnages du 21e siècle rencontrent des gamins du 13e. J'ai dit, comment ? Comment on pourrait faire ça ? Elle me dit, oh, je sais pas, une porte temporelle. À partir du moment où elle m'avait dit pas de fantastique, mais qu'elle m'autorisait à une porte temporelle, je me suis dit, ça va, on va avoir les coudées assez franches pour faire un passage en direction du Moyen-Âge. Et c'est là que ça m'a amené à me pencher sérieusement sur l'histoire du XIIIe siècle. Donc je me sens toute petite débutante dans le roman historique, mais ça m'a passionnée, ça me passionne de faire des recherches sur cette époque.
Donc c'est du cadre lui-même, du cadre du château, qui est sorti l'histoire.
Voilà. Moi, c'est le décor qui m'a amené à écrire les aventures des personnages et cette volonté à laquelle j'ai adhéré avec une spontanéité que je ne cacherai pas, de la part de la directrice de Guédelon, de mettre en contact les enfants avec les enfants du XIIIe siècle. Voilà.
Estelle Faye, votre roman, donc celui-là, la trilogie La Voix des Oracles, se déroule durant l'Antiquité. Il y en a eu un autre avant, Porcelaine, c'était la Chine ancienne. Alors, qu'on apparente à la fantaisie historique. Alors, souvent, les auteurs de fantaisie aiment créer leurs univers avec leur pays, leurs cartes, etc. Et vous, vous choisissez une époque qui existe déjà et vous insérez votre fiction dedans. Alors, pourquoi un tel choix ?
C'est une infâme solution de facilité. Parce que en fantaisie, finalement, quand on crée un monde, enfin, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, je me mets à écrire de la fantaisie pure et dure et ça me terrifie. Quand on crée un monde, on doit tout créer. On doit inventer, mais ce que mangent les gens, comment ils se battent, comment ils s'habillent, quels sont leurs cultes. Et quand on fait de la fantaisie historique, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a qu'à piocher en fait, dans le cadre. Quand on fait des recherches, on découvre des choses, des concepts qui sont beaucoup plus forts souvent que ce qu'on aurait pu inventer. Par exemple, donc, une grande partie de l'intrigue est basée sur le concept étrusque de Dieu voilé. Alors, la civilisation étrusque fait partie, non pas des civilisations qui n'ont pas écrit, mais des civilisations dont on ne sait toujours pas déchiffrer l'écriture. L'histoire des Étrusques reste très mystérieuse. C'est la première civilisation qui a été à la fois conquise et amalgamée par Rome. Et pendant des siècles, on a même oublié son existence. Pour certains, par exemple, c'est l'une des civilisations qui est à la base du mythe de l'Atlantide. Et quand on a redécouvert la civilisation étrusque à partir de la Renaissance, on s'est aperçu déjà que les femmes avaient un statut dans ce monde qu'elles n'avaient pas du tout dans le reste de l'Antiquité. C'était une civilisation où les femmes étaient très libres, où elles avaient beaucoup de pouvoir, par exemple. Et on a découvert aussi que le panthéon étrusque, qui est l'un des panthéons à la base du panthéon romain, avait une chose qui est unique dans l'Antiquité, le concept de dieux voilés, des dieux derrière un voile qui sont au-dessus des autres dieux et que même les autres dieux ne peuvent voir. Ce concept reste super mystérieux, mais tout de suite, évidemment, j'avais envie de mettre de la fantaisie avec ça. Tout de suite, j'avais envie d'en faire quelque chose, d'en faire l'un des buts de la quête de mon héroïne. Et en essayant de rendre hommage à tout ce que ce concept peut transporter de mysticisme et de magie. Donc, en m'inscrivant quand même très humblement aussi dans les pas de cette grande histoire. Et pour finir aussi, avant d'être une fan de fantasy, j'étais une grosse fan de romans historiques, et notamment de polars historiques que je lisais beaucoup quand j'étais enfant avec mon père. Donc, qui m'a amené voir Le Nom de la Rose, ça m'a aussi donné le virus très jeune, voilà.
Non, je disais, elle pouvait aussi s'appuyer sur les légendes aussi, c'est très intéressant là-dessus.
Complètement, la légende, ou par exemple aussi, ben, pour ce que mangent ici, donc, dans mon tome 2, il y a les fameux cavaliers parthes, et je voulais savoir que mangeaient les parthes, en fait, au 5e siècle après Jésus-Christ. Ça m'a fait faire pas mal de recherches. Il y a un côté chasse au trésor aussi, comme je crois qu'on a déjà évoqué, ce côté de vraiment trouver ce que mangent les parthes, et ce qu'ils mangent en plus est vraiment représentatif de leur culture, c'est-à-dire c'est des gens qui, même quand ils ont abandonné leur culture nomade, à la base c'était des cavaliers nomades, et même quand ils sont sédentarisés, ils ont gardé des habitudes alimentaires de nomades. Donc ça fait partie des choses qui ajoutent tout de suite de l'imagerie, qui ajoutent tout de suite du sens à une histoire. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est de piocher dans l'histoire, pour ça, dans la grande histoire, avec un grand H. Donc voilà, merci.
Et alors, il y a des choses qui ne sont pas renseignées dans ce que vous cherchez ? Quand vous cherchez un détail comme celui-là, est-ce que des fois vous ne trouvez pas ?
C'est plus, il y a des, par exemple, il y a des moments du roman. Par exemple, dans le tome 3, je vais chez les Pictes, de l'autre côté du mur d'Adrien. Et en fait, les Pictes, il y a beaucoup d'histoires contradictoires à leur sujet. Donc, j'ai pris finalement ce qui m'intéressait dans le cadre de cette histoire et dans le cadre aussi de cette antiquité que j'avais envie de raconter. C'est vraiment donc quand l'un de mes personnages passe du côté picte, ce qu'il va découvrir, c'est la vision des pictes qui me semblait la plus pertinente, la plus intéressante dans ce contexte-là aussi, qui me semblait peut-être la plus riche de sens. Mais il y a plein de visions des pictes. Donc au bout d'un moment, je devais en choisir une quand vraiment je vais voir ces fameux pictes. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir 10 têtes dans un roman. Ils peuvent en avoir qu'une. Et là, c'est un choix aussi d'auteur. C'est un choix qui est moitié de l'instinct, moitié de la cohérence vis-à-vis du roman, moitié aussi de l'auteur qui se fait plaisir et qui va là où il a envie d'aller. Voilà. Je reconnais.
Quand on parle des recherches et tout, c'est très marrant. Moi, j'ai écrit un bouquin sur les nourrices du Morvan qui allaient faire une nourriture à Paris. Alors, en 1850, bon, alors elle prend le train. Ah, d'accord, elle prend le train. Mais où elle prend le train ? Il n'y a pas toutes les stations, les lignes et tout. Bon, après, les trains, ils passent combien de fois? Une fois par semaine, une fois par jour? Après, combien de temps dure le voyage? Le prix du billet, c'est combien? À quelle gare elle arrive à Paris? Et simplement pour mettre trois lignes dans le roman, en fait, j'ai passé 8 jours à chercher ça. Mais c'est jubilatoire. Voilà, tu parlais d'une chasse au trésor, c'est tout à fait ça.
Si je peux juste rebondir 30 secondes, en plus sur les transports, justement, comprendre le temps que mettait chaque voyage à telle époque donnée, ça montre que aussi les hommes avaient une perception du temps, un rapport au temps qui était complètement différent d'une autre. Et que pendant un voyage qui, nous, dure quelques heures, pour eux, pouvait durer facilement des jours, voire des mois, si on parle de voyage en avion par rapport au voyage de l'époque, pendant tous ces mois-là, forcément, les rapports humains entre les gens qui vivaient ce voyage ensemble changeaient aussi. Donc c'est après des rapports humains différents, des émotions différentes, et ça peut nous amener vraiment très loin.
Vous vous noyez jamais dans tous ces détails, dans toute cette documentation, dans toute cette recherche ?
Non, parce que je fais partie des auteurs qu'on appelle les structurants, qui adorent tout savoir avant de commencer, par rapport aux littératurants qui, eux, l'histoire leur tombe dessus, coule dessus. Alors donc, moi, plus je cherche, plus je suis content, en fait. Hein, c'est ça. Pour moi, une fois que je commence à écrire le livre, l'histoire est terminée dans ma tête. C'est pour ça que j'aime pas tellement écrire, parce que finalement, même si j'ai écrit plein de bouquins, c'est d'inventer l'histoire avant tout qui m'intéresse.
Vous êtes quel genre d'écrivain, Gilles Laporte ? Un structurant ou un littératurant ? Vous vous perdez dans les détails ?
J'ai horreur des classifications. Parce que bon, alors roman historique par roman historique, littérature en structurant, ça me fait marrer ça. Non, il y a le travail de littérature. Je suis de ceux qui se laissent porter par leurs personnages. Voilà. J'ai besoin de créer des personnages forts dès le début de mon travail. J'ai horreur de travailler avec un plan. Je suis donc pas un structurant, je le mets entre guillemets, parce que je ne supporte pas ce genre de classification. Donc je me laisse porter par eux. Et ce sont eux qui me racontent leur histoire, ce sont eux qui s'insèrent dans l'histoire, grand H. Ce sont eux qui me mènent vers les faits parce qu'ils existent. Les faits, ce ne sont pas que les interprétations, ce ne sont pas que les récits des chroniqueurs. L'explosion de la bombe atomique sur Hiroshima, c'est un fait, quelle qu'en soit la lecture qu'on en fait. La décapitation de Louis XVI, c'est un fait, quelle que soit la lecture qu'on en fait. Donc ils existent bel et bien, les faits, même si en Angleterre, ils n'existent pas. Donc il y a cette exigence-là d'aller vers l'histoire dans sa réalité, mais relue par les personnages qui me racontent leur vie dans ces dédales. Donc moi, je me laisse porter par eux, ce sont eux qui m'inventent leur vie. Ils vont même jusqu'à me présenter parfois, un matin, un personnage que je n'avais pas imaginé du tout. Ils me disent, voilà, dans un de mes romans, l'une de mes héroïnes me présente une petite fille, me disant, voilà, elle peut nous accompagner un peu, elle est devenue l'un des personnages principaux de l'histoire. Donc jusqu'à la dernière ligne de mon travail d'écriture, je ne sais pas comment l'histoire va se terminer, comment mon histoire va se terminer. Si tu veux.
Christopher Priest, par exemple, pour la séparation, vous aviez d'abord l'histoire, cette fois avec un grand H, ou vous aviez d'abord les personnages? Qu'est-ce qui est venu avant?
The Separation is a novel that is not in Uchronie, but it's about Uchronie. It's about the process by which a writer actually discovers the way history can be subverted. And I could talk about the separation at some length, but I won't, because it's the book is around. I want you all to buy it. Instead, I want to tell you a story about, and which will give you a free Uchronie now. Last month, I went to visit Scotland, and I visited a castle called Glamis. It's written down. Glamis. This is an astonishing castle. It was inhabited by the royal family. It's where the Queen Mother was born, and it's where the present Queen was brought up. And to cut a long story short, it's the most haunted castle in Britain. It has a sealed room, which you can see from the inside of the castle, was there and it's built up. But when you go outside the castle, you can't see it. There, you can count the windows, and they're all accounted for. There is no space there for the hidden room. Very interesting. The castle also has a living heartbeat, that there is a wall that you can press your ear to, and you hear it go thump, 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 thump. Very eerie. And best of all, it has a chapel. And in this chapel, there are many things of interest, but of most interest to me was a painting made in the, something like the 17th century of Jesus Christ. And this painting is unique in the world in that it has Jesus Christ wearing a hat. And it's a Stetson.
La séparation, c'est un roman qui n'appartient pas au genre de l'Uchronie, mais qui parle de l'Uchronie. Le processus de ce roman, c'est qu'un écrivain découvre comment parle du discours historique, et il découvre comment le discours historique peut éventuellement avoir été subverti. Bon, je pourrais parler de la séparation en long, en large et en travers, mais enfin bon, je vais pas le faire. Le livre est là si ça vous intéresse. À la place, je vais plutôt vous raconter une histoire, donc je vous donne là maintenant une Uchronie gratuite. Le mois dernier, je suis allé visiter un château, le château de Glamis en Écosse, qui est un château absolument stupéfiant. C'est là où la reine-mère est née, c'est là où elle a été élevée, le prince aussi a été élevé à ce château. Et en fait, c'est le château le plus hanté d'Écosse. À l'intérieur, il y a une pièce qui est scellée. Vous êtes dans cette pièce-là, vous avez une fenêtre et vous pouvez voir de l'extérieur, il n'y a pas de problème. De l'extérieur, vous ne trouvez pas cette pièce, c'est-à-dire que vous comptez les fenêtres et il manque cette pièce, alors que vous, de l'extérieur, vous voyez à l'intérieur, vous voyez l'extérieur. C'est un château qui a un cœur battant. Il y a un mur, vous pouvez presser l'oreille sur le mur et vous entendez un poum 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 poum, très impressionnant, très étrange. Et moi, le truc que je trouve le meilleur, c'est que notamment il y a une chapelle, on trouve beaucoup de choses dans cette chapelle, et notamment il y a un tableau du XVIIe siècle qui représente Jésus-Christ. Et ce tableau est absolument unique dans le monde, où en fait Jésus-Christ porte un chapeau sur ce tableau du XVIIe siècle, et le chapeau qu'il porte, eh bien, c'est un Stetson.
D'accord. Étonnant. Tout à fait étonnant. Alors, est-ce que vous voulez nous dire, Alain Grousset, ce qui vous plaît, vous, dans l'Uchronie ? Vous voulez bien nous en parler, de l'Uchronie ?
Dans l'Uchronie, c'est revoir la chronologie des faits et puis de montrer que des fois, ces faits-là sont arrivés d'une manière assez extraordinaire et qu'il n'aurait pas fallu grand-chose pour que ces faits-là n'existent pas ou soient complètement transformés. Et montrer ses conséquences, moi, ça, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Donc j'ai écrit une histoire qui s'appelle « La guerre de 14 n'a pas eu lieu », simplement parce que l'attentat à Sarajevo a échoué. Quoi. Et lorsqu'on étudie les conséquences de l'attentat, enfin la façon dont l'attentat a été fait, vraiment, c'est une chance extraordinaire qu'ils y soient arrivés. Voilà. Alors voilà, donc, si vous partez de ce point de vue-là, tout change derrière.
Je peux me permettre d'intervenir parce qu'Alain et moi, nous avons écrit un roman d'Uchronie qui s'intitule « Sens interdit » où nous avons imaginé qu'à la fin de la guerre de 14, justement, la grippe espagnole avait non seulement, malheureusement, fait beaucoup de victimes, mais en plus modifié l'odorat humain, ce qui fait que nous avons travaillé ensemble jusqu'au présent alternatif qui serait le nôtre, où les êtres humains ne sentiraient pas tout. On aurait des odorants animaux, odorants végétaux, odorants minéraux. Et moi, c'est la première fois que je me trouvais confrontée aux recherches sur la médecine du nez, enfin, de tout le nerf olfactif, etc. Et à plusieurs reprises, j'ai dit à Alain, mais il nous faut des données médicales précises pour tout ça. Il évacuait ça beaucoup plus vite que moi. Il disait, mais c'est pas grave, on a qu'à dire qu'ils se sentent autrement, mais c'est tout. Il dit, oui, mais moi j'ai besoin d'une caution scientifique, j'avais besoin de fouiller. Et quand on disait tout à l'heure, est-ce que dans le roman historique il faut faire des recherches, je peux vous dire que j'ai passé des heures et des heures, j'étais accolable sur la tache jaune, etc., et le nerf olfactif, et puis le rapport avec le goût, etc. Et ça m'a beaucoup intéressé. Moi, c'est un des aspects qui me plaît aussi dans le projet Guédelon, c'est d'aller fouiller dans des données scientifiques ou historiques pour inclure ça dans des textes d'imaginaire, en fait.
Daniel voulait garder l'odorat végétal quand même pour sentir le vin, continuer à sentir le pinard. Parce qu'elle habite Juliena, je veux dire ça.
Très important. Et donc, au bout, vos jeunes lecteurs, vous voulez les faire réfléchir sur le sens de l'histoire, sur c'est quoi en fait le but de cette uchronie?
Le but, c'est de montrer que rien n'est acquis, que l'histoire effectivement est mouvante et l'histoire du présent est encore bien plus mouvante. Et qu'est-ce qui restera de quelle est la perception qu'auront de lointains descendants sur notre époque? Peut-être, on dira, des gens complètement fous qui étaient prêts à détruire la planète, des gens qui n'hésitaient pas à tuer des millions d'êtres humains, des millions d'animaux, simplement parfois pour des principes de précaution. Enfin, quelle est notre image qui va rester dans les livres d'histoire future? Je pense que ça, c'est intéressant et ça interpelle les enfants là-dessus. Yeah.
I was very interested. You said about the killing of the Archduke and the start of the First World War. It seems to me that some of these uchronies are based on these moments where the either or. For instance, Hitler came to power largely because of the Reichstag burnt down shortly after he became Chancellor, and that consolidated his power in Germany. And of course, it now known that it was Nazi stooges who did it. There's also now pretty incontrovertible evidence that the Americans knew that Pearl Harbor was going to happen. And it was decided that that was a sacrifice worth making because it would allow the USA to declare war on Japan. And I've recently been reading about the attack on the World Trade Center. And there's an increasing amount of evidence to suggest that what we saw was not what really happened, and that there appears to have been a similar intent to sacrifice something rather large so that the whole position of the Americans apropos the Middle East could be made very clear, and that is what happened.
Je voudrais juste rebondir parce que ça m'intéressait beaucoup ce que vous disiez sur l'assassinat de l'archiduc. Je pense que, il semble que l'uchronie repose beaucoup sur des moments de basculement comme ça. Mais c'est toujours sujet à interprétation. Et par exemple, si l'on regarde l'ascension au pouvoir d'Hitler, elle s'est principalement passée à cause de l'incendie du Reichstag peu après qu'il est devenu chancelier, puisque ça a été concomitant et ça a vraiment assis son pouvoir. Mais on a découvert après que finalement c'était des nazis qui ont orchestré tout ça. On est maintenant relativement certain, il y a quand même une grande convergence qui nous montre que les Américains étaient tout à fait au courant que l'attaque sur Pearl Harbor allait eu lieu et que c'était un sacrifice qu'il valait la peine de faire pour précipiter l'entrée des États-Unis dans la guerre contre le Japon. Et maintenant, il commence à y avoir de plus en plus d'éléments qui nous disent que finalement, l'attaque contre le World Trade Center, ce qu'on a vu, c'est peut-être pas exactement ce qui s'est passé, que peut-être il y a eu une intention similaire de sacrifier un symbole d'envergure pour faire évoluer la position des États-Unis au Moyen-Orient et la rendre beaucoup plus claire.
Estelle Faye, puisque vous m'avez autorisé à parler du chrony.
Attention, spoiler.
Un petit peu,
mais
j'ai
pas trop.
Il me semble que vous utilisez l'uchronie de façon un petit peu différente. J'ai l'impression que vous faites l'uchronie de votre propre histoire, de votre propre roman.
Disons, pour moi, l'uchronie est le voyage dans le temps, bien plus que des questions historiques, pose déjà dans le principe des questions humaines et philosophiques. C'est-à-dire, en gros, quand on parle de voyage dans le temps, quand on parle de changer l'histoire, il y a deux grandes lignes globalement. La première ligne, c'est de toute manière, on peut changer l'histoire. Et là, c'est vraiment un petit fait, par exemple, différent, va tout à coup entraîner une grande histoire complètement différente. Donc, c'est quelque part l'idée que l'être humain a un énorme pouvoir sur l'histoire et en même temps que le hasard aussi a un énorme pouvoir. Enfin, ça dépend si on est plutôt du côté de l'être humain ou du hasard, mais c'est quand même quelque chose qui est dans un côté très actif. L'idée, c'est limite, on revient dans le temps, on assassine Hitler et pouf, il n'y a plus la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une autre ligne qui est l'inéluctabilité de l'histoire. C'est-à-dire, on peut essayer de changer tous les événements qu'on veut. De toute manière, le temps viendra toujours dans sa ligne. C'est par exemple le dernier, à mon sens, très très mauvais film de la saga Star Trek, Ou de toute manière, le méchant qui, dans la saga officielle, dans la première saga, dans la série télé, devenait méchant parce que vraiment, il avait été abandonné dans une île où tous ceux qu'il aimait étaient morts. Là, dans la nouvelle saga, il n'a pas été abandonné sur une île. Ceux qu'il aime ne sont pas morts. Il n'a pas souffert et il est méchant quand même. Il est méchant parce qu'il est méchant à la base. Donc, ce qui, moralement, en plus, est très, très douteux, quoi, de dire qu'il y a des êtres qui, quoi qu'il arrive, deviennent méchants. Bref, on se retrouve toujours sur des enjeux politiques, des enjeux moraux. Est-ce que, par exemple, quelle que soit leur expérience, il y a certains hommes qui sont destinés à devenir méchants ? Là-dessus, je n'y crois absolument pas. Voilà, c'est peut-être parce que je viens d'une génération, donc fille de prof, petite fille d'instit, j'ai vraiment vu comment l'éducation pouvait changer la destinée de quelqu'un, en bien ou en mal. Donc comment l'expérience qu'on a, comment nos acquis peuvent changer notre destinée. Et l'une des choses que je tenais absolument à défendre au travers de l'Uchronie, c'est cette idée que finalement un personnage qui était le grand méchant de fantasy basique et classique, s'il a une destinée différente parce que simplement le monde dans lequel il vit a changé, ça peut devenir le héros. Il a cette possibilité-là. Et c'est quelque chose auquel humainement je crois absolument. Et dans le roman, dans l'histoire, je voulais le faire fonctionner. Et en plus, ça fonctionne. Et en plus, c'est super facile à faire fonctionner. Et s'il y a une chose que je voulais dire au travers de l'Uchronie, c'est vraiment, avant tout, il n'y a pas de solution simple. Justement, c'est pas l'idée d'assassiner Hitler ou de pas assassiner Hitler. C'est pas l'idée donc de faire Pearl Harbor ou d'empêcher Pearl Harbor. C'est vraiment de dire les choses sont plus compliquées. Et on est à une époque où on nous propose souvent soit des solutions très simples, soit on dit carrément il n'y a pas d'alternative, c'est ça et c'est rien d'autre. Les littératures de l'imaginaire nous ouvrent un grand espace de liberté, justement. Et cet espace de liberté, a fortiori, en faisant une série qui est du young adulte, donc qui s'adresse notamment à des ados, je voulais aussi l'occuper à ma manière, dans mon petit coin, pour dire les choses sont plus compliquées et donc vous êtes plus libre que ce qu'on vous dit. Vous n'avez pas le choix juste entre blanc ou noir, ou même vous n'avez pas le choix juste gris et puis il n'y a rien d'autre. Non, il y a une infinité de possibles. Et c'est ça que je voulais vraiment travailler, que je voulais vraiment aussi amener au travers de l'Uchronie.
Gilles Laporte, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de points communs avec Estelle.
Il me semble bien, oui, et ça me plaît bien. Oui, oui.
Tout ce qu'elle dit sur l'éducation, etc. Oui, on lit tout. Ça, c'est un des socles de vos personnages, justement, cette idée d'éducation qui va former les gens et qu'à la base, on a le choix de ce qu'on va devenir. Enfin,
on va pas forcément jusque-là. On a le choix de ce qu'on va devenir. On a choisi d'être ce que nous sommes. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, et ça fait partie des moteurs qui sont les miens en matière de littérature, oui. Pour moi, l'école occupe une place centrale, la transmission des connaissances occupe une place centrale, et elle a pour mission non pas de resserrer les limites du champ de vision, mais au contraire de l'élargir au maximum et de faire reculer la ligne d'horizon le plus loin possible. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai consacré d'ailleurs un bouquin à Julie-Victoire Daubier, la première femme bachelière en France, parce qu'elle a consacré sa vie tout entière à combattre de façon pacifique pour que cet objectif-là de l'école au centre du dispositif social soit une réalité. Donc, je suis en parfaite harmonie avec ce que vient de dire ma voisine. Oui, bien sûr.
Daniel, vous nous parliez tout à l'heure des recherches que vous avez faites sur la sensation, donc les odeurs, etc. Estelle, vous nous parliez de la nourriture des Pictes. Alors, il y a des choses qui sont moins renseignés en histoire. L'histoire des odeurs, alors il y a des historiens comme Alain Corbin qui vont faire des recherches dans des domaines qu'on croyait quasi impossibles, comme l'histoire des sentiments ou l'histoire des choses comme ça. Comment finalement est-ce que quand on est écrivain, on sait comment on sentait avec son nez, je veux dire, comment on ressentait les aliments et comment aussi, par exemple, une jeune fille de l'Antiquité ou une jeune fille du 19e siècle ressentait quelque chose. Comment on se situe là, pour le coup, la part de l'écrivain et la part de l'historien? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas sur des faits? Comment on se débrouille?
Alors au niveau des odeurs, je ne pourrais pas répondre, mais parce que je n'ai pas vraiment de témoignage, mais j'ai été très surprise par l'importance des couleurs, par exemple, au Moyen-Âge. J'ai beaucoup apprécié le livre « La symbolique du Moyen-Âge » de Michel Pastoureau, qui est très connu pour avoir fait justement des études approfondies sur les couleurs. Et j'ai découvert, par exemple, que les gens du peuple, dans les villageois, comme le petit village proche qui aurait pu être proche de Guédelon, c'était des vêtements extrêmement ternes. Il y avait très peu de teinture, il y avait très peu de couleurs. Et le bleu avait un rôle particulièrement important parce que c'était le bleu royal, c'était le bleu de la noblesse. Et j'ai mis en scène un jeune peintre dans le deuxième tome, dans Le Maître Chêne. Et ce jeune peintre, pour impressionner des gens qui le menacent, des charbonniers qui avaient une très très mauvaise réputation parce qu'ils détruisaient, ça paraît très étrange, mais on reprochait aux charbonniers de détruire les forêts pour faire du charbon de bois dans leur mine charbonnière, là, dans leur fosse charbonnière, et ils étaient très mal vus. Et on voyait le charbonnier traditionnel, noir, sale, etc. Et Guido, pour impressionner ses charbonniers, met sa belle cape bleue, parce que lui, il a la chance de posséder une cape qui est avec la teinture bleue, d'un bleu lumineux. Et rien que ça, rien qu'en voyant cette couleur, en face de lui, les hommes comprennent que c'est un garçon important et que si jamais ils s'en prennent à lui jusqu'à le tuer éventuellement, ils seront pourchassés jusqu'aux limites du pays parce qu'ils ont osé finalement toucher quelqu'un qui portait le bleu, de pas obligatoirement de la noblesse, mais du personnage qui avait des amis, qui avait des alliés, qui seraient vengés en fait. Et ça, ce sont des choses qui m'ont beaucoup plu parce que moi, mes gamins, quand ils débarquent au XIIIe siècle, ils sont avec leurs baskets et leurs jeans. Et c'est une des premières choses qui surprend effectivement la jeune Paqueline, la petite du Moyen-Âge qui les voit pour la première fois. Et moi, je ne voulais absolument pas non plus qu'ils parlent, que les enfants du Moyen-Âge parlent comme ceux du XXIe siècle. Donc j'ai essayé de... Alors je gardais présent à l'esprit le fait que j'ai des très jeunes lecteurs et que je ne pouvais pas vraiment mettre beaucoup d'anciens français dans le texte, parce que l'ancien français, quand on a commencé à vraiment le regarder de près, c'est très très difficile à comprendre. Donc j'ai joué sur le patois aussi de la région, sur des tournures, un petit peu avec des inversions du sujet, enfin des choses comme ça, des articles faisant allusion aux articles de l'ancien français. Mais je voulais absolument que mes jeunes héros voient que le langage n'était pas le même. Je ne voyais pas mes gamins du 13e débarquer en disant « ouais, le professeur de français que j'ai été pendant des années était quand même là quelque part derrière l'auteur pour garder cette approche pédagogique aussi de la langue. Mais bon, pour les couleurs, pour la nourriture aussi, à un moment donné, un de mes personnages parce qu'il y a un personnage du passé à notre époque, et en se moquant, un des gamins dit « Je vois qu'il a mangé des chips, ça a quand même dû le surprendre pour quelqu'un qui vivait à une époque où on ne connaissait pas la pomme de terre. » Voilà. Et ce sont des toutes petites réflexions comme ça dans mon roman que j'espère être... par le sourire ou par le rire, faire prendre conscience aux enfants de nos jours que le Moyen-Âge, c'était quand même vraiment autre chose.
Et peut-être je vais parler de la deuxième partie, c'est-à-dire les sentiments. Et alors, sur les sentiments, nous avons des alliés très précieux que Christopher Priest a déjà invoqué tout à l'heure. Nous avons les poètes. Voilà. Et les poètes nous donnent la version de leur époque, de l'amour, de l'amitié, des relations filiales. Globalement, ils nous disent en fait comment, à leur époque, ils interprétaient leur monde, avec parfois des petites anecdotes aussi sympathiques ou des choses qui nous donnent une vision de la société qui montre vraiment les décalages avec notre époque. Notamment, il y a une amie latiniste qui m'a fait découvrir, quand j'étais en train de faire ma doc pour La Voix des Oracles, un poème du 5e siècle qui s'appelle Le Retour chez soi, qui est un poète donc latin qui parle d'un voyage qu'il fait de Gaulle pour revenir à Rome. Et il voit un pays qui, pour lui, est en pleine décrépitude, aussi bien décrépitude donc réelle, concrète, que décrépitude morale. Et notamment, pour lui, qui est un romain de l'ancienne époque, il dit que la nouvelle religion a perverti la jeunesse. Maintenant, la jeunesse veut ne pas travailler un jour par semaine. Et ça, c'est vraiment le début de la fin pour lui. Voilà. ça permet mine de rien de voir justement les décalages, de voir les époques qui se répondent comme ça.
Oui. Finalement, il y a des choses qui sont tout à fait intemporelles.
Après, il y a l'humanité aussi en général. Après, pour les décalages de sentiments, là, je vais peut-être parler de mon roman qui se passe en Chine, Porcelaine. Et Porcelaine, j'ai travaillé avec des étudiantes chinoises sur Paris pour que mes personnages pensent vraiment avec les codes de leur société et de leur culture, donc chinoise du 3e au 18e siècle, et ne soient pas des Européens de nos jours grimés en chinois. Ça, c'est surtout ce que je voulais éviter. Et par exemple, il y a donc une histoire d'amour qui s'instaure entre deux personnages un peu inattendus. Mais simplement, ce que m'ont dit tout de suite donc mes correctrices, mes aides, elles m'ont dit, ils sont au 18e siècle en Chine. Ils ne vont jamais se dire « je t'aime ». Voilà, ça, c'est une scène que juste tu ne peux pas mettre. Et c'est ce genre de petits détails qui, mis bout à bout, composent un tableau différent et composent un tableau qui, de plus en plus, n'a rien à voir avec notre réalité à nous. En même temps, c'est l'un des bonheurs en tant qu'auteur et a fortiori en tant qu'auteur d'imaginaire. C'est vraiment de se projeter hors de sa carcasse, de s'efforcer de sortir de ses certitudes, de ses références pour aller ailleurs et pour aller dans des ailleurs qui, parfois, sont même plus différents que ce qu'on aurait imaginé.
C'est important, vous aurez le mot de la fin, Gilles Laporte. C'est important la cohérence, cette cohérence psychologique et historique dans vos personnages. Que ce soit des personnages qui appartiennent à leur époque.
Bien sûr, bah c'est tout le problème de la vraisemblance. Hein. Oui, bien sûr, il faut que les personnages soient en adéquation parfaite avec l'époque. Et que moi, je suis en adéquation parfaite avec l'époque lorsque je travaille sur un... Exemple, j'ai publié une biographie de Frédéric Chopin, il y en a déjà eu des dizaines avant, mais j'avais l'impression que toutes celles qui avaient été publiées donnaient une image de Chopin qui ne correspondait pas à ma vision. C'est-à-dire un personnage éthéré, complètement spirituel, en apesanteur permanente, qui était déconnecté de la réalité quotidienne, alors qu'il était tout le contraire. Chopin, c'était un clown, c'était un type, un viveur qui aimait faire la java, qui s'est fait virer du conservatoire de Varsovie parce que il passait son temps à imiter les profs, à les singer. Donc j'ai voulu réinstaller Chopin dans notre humanité de simple mortel, ce qui en fait accentuait encore sa qualité, son génie, hein. Lorsque j'ai écrit cette biographie, j'ai poussé l'exigence jusqu'à mettre mes pas dans tous les pas de Chopin de son lieu de naissance, Zelazowowa, à côté de Varsovie, jusqu'à Place Vendôme à Paris où il est mort, en passant par évidemment Vienne, Stuttgart, Paris, Nohant bien sûr, où il a passé près de 10 ans avec George Sand, l'Écosse et l'Angleterre qui ont été son dernier voyage. Et lorsque je visitais Nohant, par exemple, j'y suis allé très souvent, j'avais accès à cette maison dans la journée, comme tous les touristes. Or, cette maison vivait la nuit surtout. Elle commençait à vivre au début du dîner que donnait George Sand, chaque soir quasiment, avec des personnages prestigieux, avec Delacroix, avec Liszt, avec... Et j'ai écrit au ministère pour demander l'autorisation de visiter cette maison la nuit. J'étais persuadé que ça me serait refusé, puisque c'est un musée national. Et la réponse est arrivée, j'étais autorisé, le gardien m'a enfermé dans la maison à 8h du soir, il m'a dit « vous m'appellerez quand vous voudrez sortir ». J'ai passé la nuit seul dans cette maison et je l'ai appelé à 5h du matin. Et là, j'ai vraiment recueilli des impressions très fortes, des émotions aussi que j'ai vécues, que j'ai tenté d'injecter dans ma biographie parce que je ne pouvais pas imaginer raconter ce qu'étaient les journées, les nuits surtout, à Nohant, sans les avoir, à ma manière, vécues. Oui, c'est très important.
Et donc, finalement, il y a plusieurs Chopins. Il y a le vôtre et puis il y a les autres.
Mais bien sûr. Et c'est le croisement, la conjonction de toutes ces images qui peuvent être données d'un personnage aussi historique que les Chopins, qui nous rapproche de ce qu'il était en réalité. Oui, bien sûr.
Il me reste à vous remercier. Messieurs, mesdames, merci à vous et bonne fin de journée.
Merci.
Au revoir.